Deuxième partie, chapitre 10. Chapitre 1er, maladie de ma grand-mère, maladie de Bergotte, le duc et le médecin, déclin de ma grand-mère, sa mort. Nous retraversâmes l'avenue Gabriel, au milieu de la foule des promeneurs. Je fis asseoir ma grand-mère sur un banc, et j'allai chercher un fiacre. Elle, au cœur de qui je me plaçais toujours pour juger la personne la plus insignifiante, elle m'était maintenant fermée. Elle était devenue une partie du monde extérieur, et plus qu'à de simples passants, j'étais forcée de lui taire ce que je pensais de son état, de lui taire mon inquiétude. Je n'aurais pu lui en parler avec plus de confiance qu'à une étrangère. Elle venait de me restituer les pensées, les chagrins, que depuis mon enfance je lui avais confiés pour toujours. Elle n'était pas morte encore. J'étais déjà seule. Et même ces allusions qu'elle avait faites aux Guermantes, à Molière, à nos conversations sur le petit noyau, prenaient un air sans appui, sans cause, fantastique. Parce qu'elle sortait du néant de ce même être qui, demain peut-être, n'existerait plus, pour lequel elle n'aurait plus aucun sens. De ce néant, incapable de les concevoir, que ma grand-mère serait bientôt. « Monsieur, je ne dis pas, mais vous n'avez pas pris de rendez-vous avec moi. Vous n'avez pas de numéro. D'ailleurs, ce n'est pas mon jour de consultation. Vous devez avoir votre médecin. » Je ne peux pas me substituer, à moins qu'il ne me fasse appeler en consultation. C'est une question de déontologie. Au moment où je faisais signe à un fiacre, j'avais rencontré le fameux professeur E, presque ami de mon père et de mon grand-père, en tout cas en relation avec eux, lequel demeurait avenue Gabriel. Et, pris d'une inspiration subite, je l'avais arrêté au moment où il rentrait, pensant qu'il serait peut-être d'un excellent conseil pour ma grand-mère. Mais, pressé, après avoir pris ses lettres, il voulait m'éconduire, et je ne pus lui parler qu'en montant avec lui dans l'ascenseur, dont il me pria de le laisser manœuvrer les boutons. C'était chez lui une manie. « Mais, monsieur, je ne demande pas que vous receviez ma grand-mère. Vous comprendrez, après ce que je vais vous dire, qu'elle est peu en état. Je vous demande au contraire de passer d'ici une demi-heure chez nous, où elle sera rentrée. »«
Passer chez vous? Mais, monsieur, vous n'y pensez pas. Je dîne chez le ministre du Commerce. Il faut que je fasse une visite avant. Je vais m'habiller tout de suite. Pour comble de malheur, mon habit a été déchiré. » Et l'autre n'a pas de boutonnière pour passer les décorations. Je vous en prie, faites-moi le plaisir de ne pas toucher les boutons de l'ascenseur. Vous ne savez pas le manœuvrer. Il faut être prudent en tout. Cette boutonnière va me retarder encore. Enfin, par amitié pour les vôtres, si votre grand-mère vient tout de suite, je la recevrai. Mais je vous préviens que je n'aurai qu'un quart d'heure bien juste à lui donner. »
J'étais reparti aussitôt, n'étant même pas sorti de l'ascenseur que le professeur E avait mis lui-même en marche pour me faire descendre, non sans me regarder avec méfiance. Nous disons bien que l'heure de la mort est incertaine, mais quand nous disons cela, nous nous représentons cette heure comme située dans un espace vague et lointain. Nous ne pensons pas qu'elle ait un rapport quelconque avec la journée déjà commencée, et puisse signifier que la mort, ou sa première prise de possession, partielle, de nous, après laquelle elle ne nous lâchera plus, pourra se produire dans cet après-midi même, si peu incertain, cet après-midi où l'emploi de toutes les heures est réglé d'avance. On tient à sa promenade pour avoir dans un mois le total de bon air nécessaire. On a hésité sur le choix d'un manteau à emporter, du cocher à appeler, on est en fiacre, la journée est tout entière devant vous, courte, parce qu'on veut être rentré à temps pour recevoir une amie. On voudrait qu'il fît aussi beau le lendemain, et on ne se doute pas que la mort, qui chemine en vous dans un autre plan, au milieu d'une impénétrable obscurité, a choisi précisément ce jour-là pour entrer en scène, dans quelques minutes, à peu près à l'instant où la voiture atteindra les Champs-Élysées.
Peut-être ceux que hantent d'habitude l'effroi de la singularité particulière à la mort trouveront-ils quelque chose de rassurant à ce genre de mort-là, à ce genre de premier contact avec la mort, parce qu'elle y revêt une apparence connue, familière, quotidienne. Un bon déjeuner l'a précédé et la même sortie que font des gens bien portants. Un retour en voiture découverte se superpose à sa première atteinte. Si malade que fut ma grand-mère, en somme, plusieurs personnes auraient pu dire qu'à 6 heures, quand nous revînmes des Champs-Élysées, elle l'avait saluée, passant en voiture découverte, par un temps superbe. Le Grandin, qui se dirigeait vers la place de la Concorde, nous donna un coup de chapeau, en s'arrêtant, l'air étonné. Moi, qui n'étais pas encore détachée de la vie, je demandai à ma grand-mère si elle lui avait répondu, lui rappelant qu'il était susceptible. Ma grand-mère, me trouvant sans doute bien léger, leva sa main en l'air comme pour dire « Qu'est-ce que cela fait? Cela n'a aucune importance. » Oui, on aurait pu dire tout à l'heure, pendant que je cherchais un fiacre, que ma grand-mère était assise sur un banc, avenue Gabriel, qu'un peu après elle avait passé en voiture découverte. Mais eût-ce été bien vrai? Le banc, lui, pour qu'il se tienne dans une avenue, bien qu'il soit soumis aussi à certaines conditions d'équilibre, n'a pas besoin d'énergie. Mais pour qu'un être vivant soit stable, même appuyé sur un banc ou dans une voiture, il faut une tension de force que nous ne percevons pas d'habitude, plus que nous ne percevons, parce qu'elle s'exerce dans tous les sens, la pression atmosphérique. Peut-être, si on faisait le vide en nous et qu'on nous laissa supporter la pression de l'air, sentirions-nous, pendant l'instant qui précéderait notre destruction, le poids terrible que rien ne neutraliserait plus. De même, quand les abîmes de la maladie et de la mort s'ouvrent en nous et que nous n'avons plus rien à opposer au tumulte avec lequel le monde et notre propre corps se ruent sur nous, alors, soutenir même la pesée de nos muscles, même le frisson qui dévaste nos moelles, alors, même nous tenir immobiles dans ce que nous croyons d'habitude n'être rien que la simple position négative d'une chose, exige, si l'on veut que la tête reste droite et le regard calme, de l'énergie vitale et devient l'objet d'une lutte épuisante. Et si le Grandin nous avait regardés de cet air étonné, c'est qu'à lui, comme à ceux qui passaient alors, dans le fiacre où ma grand-mère semblait assise sur la banquette, elle était apparue sombrant, glissant à l'abîme, se retenant désespérément au coussin qui pouvait à peine retenir son corps précipité, les cheveux en désordre, l'œil égaré, incapable de plus faire face à l'assaut des images que ne réussissait plus à porter sa prunelle. Elle était apparue, bien qu'à côté de moi, plongée dans ce monde inconnu au sein duquel elle avait déjà reçu les coups dont elle portait les traces quand je l'avais vue tout à l'heure aux Champs-Élysées. Son chapeau, son visage, son manteau, dérangé par la main de l'ange invisible avec lequel elle avait lutté. J'ai pensé, depuis, que ce moment de son attaque n'avait pas dû surprendre entièrement ma grand-mère, que peut-être même elle l'avait prévu longtemps d'avance, avait vécu dans son attente. Sans doute, elle n'avait pas su quand ce moment fatal viendrait, incertaine, pareille aux amants qu'un doute du même genre porte tour à tour à fonder des espoirs déraisonnables et des soupçons injustifiés sur la fidélité de leur maîtresse. Mais il est rare que ces grandes maladies, telles que celles qui venaient enfin de la frapper en plein visage, n'élisent pas pendant longtemps domicile chez le malade avant de le tuer, et durant cette période ne se fassent pas assez vite, comme un voisin ou un locataire liant, connaître de lui. C'est une terrible connaissance, moins par les souffrances qu'elle cause que par l'étrange nouveauté des restrictions définitives qu'elle impose à la vie. On se voit mourir, dans ce cas, non pas à l'instant même de la mort, mais des mois, quelquefois des années auparavant, depuis qu'elle est hideusement venue habiter chez nous. La malade fait la connaissance de l'étranger qu'elle entend aller et venir dans son cerveau. Certes, elle ne le connaît pas de vue, mais des bruits qu'elle l'entend régulièrement faire, elle déduit ses habitudes. Est-ce un malfaiteur? Un matin, elle ne l'entend plus. Il est parti. Ah, si c'était pour toujours! Le soir, il est revenu. Quels sont ses desseins? Le médecin consultant, soumis à la question, comme une maîtresse adorée, répond par des serments, tel jour cru, tel jour mis en doute. Au reste, plutôt que celui de la maîtresse, le médecin joue le rôle des serviteurs interrogés. Ils ne sont que des tiers. Celle que nous pressons, dont nous soupçonnons qu'elle est sur le point de nous trahir, c'est la vie elle-même. Et malgré que nous ne la sentions plus la même, nous croyons encore en elle. Nous demeurons en tout cas dans le doute jusqu'au jour qu'elle nous a enfin abandonnés. Je mis ma grand-mère dans l'ascenseur du professeur E. Et au bout d'un instant, il vint à nous et nous fit passer dans son cabinet. Mais là, si pressé qu'il fût, son air rogue changea, tant les habitudes sont fortes. Et il avait celle d'être aimable, voire enjoué avec ses malades. Comme il savait ma grand-mère très lettrée, et qu'il l'était aussi, il se mit à lui citer pendant 2 ou 3 minutes de beaux vers sur l'été radieux qu'il faisait. Il l'avait assise dans un fauteuil, lui à contre-jour, de manière à bien la voir. Son examen fut minutieux, nécessita même que je sortisse un instant. Il le continua encore, puis, ayant fini, se mit, bien que le quart d'heure touchât à sa fin, à refaire quelques citations à ma grand-mère. Il lui adressa même quelques plaisanteries assez fines que j'eusse préféré entendre un autre jour, mais qui me rassurèrent complètement par le ton amusé du docteur. Je me rappelai alors que M. Falière, président du Sénat, avait eu, il y avait nombre d'années, une fausse attaque, et qu'au désespoir de ses concurrents, il s'était mis 3 jours après à reprendre ses fonctions et préparait, disait-on, une candidature plus ou moins lointaine à la présidence de la République. Ma confiance en un prompt rétablissement de ma grand-mère fut d'autant plus complète que, au moment où je me rappelais l'exemple de M. Falière, je fus tiré de la pensée de ce rapprochement par un franc éclat de rire qui termina une plaisanterie du professeur E. Sur quoi il tira sa montre, fronça fiévreusement le sourcil en voyant qu'il était en retard de 5 minutes, et tout en nous disant adieu, sonna pour qu'on apportât immédiatement son habit. Je laissai ma grand-mère passer devant, refermai la porte et demandai la vérité au savant. « Votre grand-mère est perdue, » me dit-il. « C'est une attaque provoquée par l'urémie. En soi, l'urémie n'est pas fatalement un mal mortel, mais le cas me paraît désespéré. Je n'ai pas besoin de vous dire que j'espère me tromper. Du reste, avec Cottard, vous êtes en excellente main. Excusez-moi, » me dit-il en voyant entrer une femme de chambre qui portait sur le bras l'habit noir du professeur. « Vous savez que je dîne chez le ministre du Commerce. J'ai une visite à faire avant. »« Ah, la vie n'est pas que rose, comme on le croit à votre âge. » Et il me tendit gracieusement la main. J'avais refermé la porte, et un valet nous guidait dans l'antichambre, ma grand-mère et moi, quand nous entendîmes de grands cris de colère. La femme de chambre avait oublié de percer la boutonnière pour les décorations. Cela allait demander encore 10 minutes. Le professeur tempêtait toujours pendant que je regardais sur le palier ma grand-mère qui était perdue. Chaque personne est bien seule. Nous repartîmes vers la maison. Le soleil déclinait. Il enflammait un interminable mur que notre fiacre avait allongé avant d'arriver à la rue que nous habitions. Mur sur lequel l'ombre, projetée par le couchant, du cheval et de la voiture, se détachait en noir sur le fond rougeâtre, comme un char funèbre dans une terre cuite de Pompéi. Enfin, nous arrivâmes. Je fis asseoir la malade en bas de l'escalier, dans le vestibule, et je montai prévenir ma mère. Je lui dis que ma grand-mère rentrait un peu souffrante, ayant eu un étourdissement. Dès mes premiers mots, le visage de ma mère atteignit au paroxysme d'un désespoir, pourtant déjà si résigné, que je compris que depuis bien des années, elle le tenait tout près en elle pour un jour incertain et fatal. Elle ne me demanda rien. Il semblait, de même que la méchanceté aime à exagérer les souffrances des autres, que par tendresse elle ne voulut pas admettre que sa mère fût très atteinte, surtout d'une maladie qui peut toucher l'intelligence. Maman frissonnait, son visage pleurait sans larmes. Elle courut dire qu'on alla chercher le médecin, mais comme Françoise demandait qui était malade, elle ne put répondre, sa voix s'arrêta dans sa gorge. Elle descendit en courant avec moi, effaçant de sa figure le sanglot qui la plissait. Ma grand-mère attendait en bas sur le canapé du vestibule, mais dès qu'elle nous entendit, se redressa, se tint debout, fit à maman des signes gais de la main. Je lui avais enveloppé à demi la tête avec une mantille en dentelle blanche, lui disant que c'était pour qu'elle n'eût pas froid dans l'escalier. Je ne voulais pas que ma mère remarquât trop l'altération du visage, la déviation de la bouche. Ma précaution était inutile. Ma mère s'approcha de grand-mère, embrassa sa main comme celle de son Dieu, la soutint, la souleva jusqu'à l'ascenseur avec des précautions infinies, où il y avait, avec la peur d'être maladroite et de lui faire mal, l'humilité de qui se sent indigne de toucher ce qu'il connaît de plus précieux. Mais pas une fois elle ne leva les yeux et ne regarda le visage de la malade. Peut-être fût-ce pour que celle-ci ne s'attristât pas en pensant que sa vue avait pu inquiéter sa fille. Peut-être par crainte d'une douleur trop forte qu'elle n'osa pas affronter. Peut-être par respect, parce qu'elle ne croyait pas qu'il lui fût permis sans impiété de constater la trace de quelque affaiblissement intellectuel dans le visage vénéré. Peut-être pour mieux garder plus tard intacte l'image du vrai visage de sa mère, rayonnant d'esprit et de bonté. Ainsi montèrent-elles l'une à côté de l'autre, ma grand-mère à demi cachée dans sa mantille, ma mère détournant les yeux. Pendant ce temps, il y avait une personne qui ne quittait pas des siens ce qui pouvait se deviner des traits modifiés de ma grand-mère que sa fille n'osait pas voir. Une personne qui attachait sur eux un regard ébahi, indiscret et de mauvais augure. C'était Françoise. Non qu'elle n'aimât sincèrement ma grand-mère, même elle avait déçu et presque scandalisée par la froideur de maman qu'elle aurait voulu voir se jeter en pleurant dans les bras de sa mère. Mais elle avait un certain penchant à envisager toujours le pire. Elle avait gardé de son enfance deux particularités qui sembleraient devoir s'exclure, mais qui, quand elles sont assemblées, se fortifient. Le manque d'éducation des gens du peuple, qui ne cherchent pas à dissimuler l'impression, voire l'effroi douloureux causé en eux par la vue d'un changement physique qu'il serait plus délicat de ne pas paraître remarqué, et la rudesse insensible de la paysanne qui arrache les ailes des libellules avant qu'elle ait l'occasion de tordre le cou au poulet et manque de la pudeur qui lui ferait cacher l'intérêt qu'elle éprouve à voir la chair qui souffre. Quand, grâce aux soins parfaits de Françoise, ma grand-mère fut couchée, elle se rendit compte qu'elle parlait beaucoup plus facilement. Le petit déchirement ou encombrement d'un vaisseau qu'avait produit l'urémie avait sans doute été très léger. Alors elle voulut ne pas faire faute à maman, l'assister dans les instants les plus cruels que celle-ci eût encore traversés. « Eh bien, ma fille, lui dit-elle en lui prenant la main, et en gardant l'autre devant sa bouche, pour donner cette cause apparente à la légère difficulté qu'elle avait encore à prononcer certains mots. « Voilà comme tu plains ta mère. Tu as l'air de croire que ce n'est pas désagréable, une indigestion. » Alors, pour la première fois, les yeux de ma mère se posèrent passionnément sur ceux de ma grand-mère. ne voulant pas voir le reste de son visage. Et elle dit, commençant la liste de ces faux serments que nous ne pouvons pas tenir, « Maman, tu seras bientôt guérie, c'est ta fille qui s'y engage. » Et enfermant son amour le plus fort, toute sa volonté que sa mère guérit dans un baiser à qui elle les confia et qu'elle accompagna de sa pensée et de tout son être jusqu'au bord de ses lèvres, elle alla le déposer humblement, pieusement sur le front adoré. Ma grand-mère se plaignait d'une espèce d'alluvion de couverture qui se faisait tout le temps du même côté sur sa jambe gauche et qu'elle ne pouvait pas arriver à soulever. Mais elle ne se rendait pas compte qu'elle en était elle-même la cause, de sorte que chaque jour, elle accusa injustement Françoise de mal retaper son lit. Par un mouvement convulsif, elle rejetait de ce côté tout le flot de ses écumantes couvertures de fine laine qui s'y amoncelaient comme les sables dans une baie bien vite transformée en grève. Si on y construit une digue, par les apports successifs du flux. Ma mère et moi, de qui le mensonge était d'avance percé à jour par Françoise, perspicace et offensante, nous ne voulions même pas dire que ma grand-mère fut très malade, comme si cela eût pu faire plaisir aux ennemis que d'ailleurs elle n'avait pas, et eût été plus affectueux de trouver qu'elle n'allait pas si mal que ça, en somme, par le même sentiment instinctif qui m'avait fait supposer qu'André plaignait trop Albertine pour l'aimer beaucoup. Les mêmes phénomènes se reproduisent, des particuliers à la masse, dans les grandes crises. Dans une guerre, celui qui n'aime pas son pays n'en dit pas de mal, mais le croit perdu, le plaint, voit les choses en noir. Françoise nous rendait un service infini par sa faculté de se passer de sommeil, de faire les besognes les plus dures. Et si, étant allée se coucher après plusieurs nuits passées debout, on était obligé de l'appeler un quart d'heure après qu'elle s'était endormie, elle était si heureuse de pouvoir faire des choses pénibles, comme si elles eussent été les plus simples du monde, que, loin de rechigner, elle montrait sur son visage de la satisfaction et de la modestie. Seulement, quand arrivait l'heure de la messe et l'heure du premier déjeuner, ma grand-mère eût-elle été agonisante, Françoise se fût éclipsée à temps pour ne pas être en retard. Elle ne pouvait ni ne voulait être suppléée par son jeune valet de pied. Certes, elle avait apporté de Combray une idée très haute des devoirs de chacun envers nous. Elle n'eût pas toléré qu'un de nos gens nous manquât. Cela avait fait d'elle une si noble, si impérieuse, si efficace éducatrice qu'il n'y avait jamais eu chez nous de domestiques si corrompus qui n'eussent vite modifié, épurer leur conception de la vie jusqu'à ne plus toucher le sou du franc et à se précipiter, si peu serviables qu'ils eussent été jusqu'alors, pour me prendre des mains et ne pas me laisser me fatiguer à porter le moindre paquet. Mais, à Combray aussi, Françoise avait contracté, et importé à Paris, l'habitude de ne pouvoir supporter une aide quelconque dans son travail. Se voir prêter un concours lui semblait recevoir une avanie, et des domestiques sont restés des semaines sans obtenir d'elle une réponse à leur salut matinal, sont même partis en vacances sans qu'elle leur dit adieu, et qu'ils devinassent pourquoi. En réalité, pour la seule raison qu'ils avaient voulu faire un peu de sa besogne un jour qu'elle était souffrante. Et en ce moment où ma grand-mère était si mal, la besogne de Françoise lui semblait particulièrement sienne. Elle ne voulait pas, elle, la titulaire, se laisser chiper son rôle dans ses jours de gala. Aussi, son jeune valet de pied, écarté par elle, ne savait que faire, et non content d'avoir, à l'exemple de Victor, pris mon papier dans mon bureau, il s'était mis de plus à emporter des volumes de vers de ma bibliothèque. Il les lisait, une bonne moitié de la journée, par admiration pour les poètes qui les avaient composés, mais aussi afin, pendant l'autre partie de son temps, d'émailler de citations les lettres qu'il écrivait à ses amis de village. Certes, il pensait ainsi les éblouir, mais, comme il avait peu de suite dans les idées, il s'était formé celle-ci que, ces poèmes trouvés dans ma bibliothèque étaient choses connues de tout le monde et à quoi il est courant de se reporter. Si bien qu'écrivant à ces paysans dont il escomptait la stupéfaction, il entremêlait ses propres réflexions de vers de Lamartine, comme il eût dit « qui vivra verra » ou même « bonjour ». À cause des souffrances de ma grand-mère, on lui permit la morphine. Malheureusement, si celle-ci les calmait, elle augmentait aussi la dose d'albumine. Les coups que nous destinions au mal qui s'était installé en grand-mère portaient toujours à faux. C'était elle, c'était son pauvre corps interposé qui les recevait, sans qu'elle se plaignît qu'avec un faible gémissement. Et les douleurs que nous lui causions n'étaient pas compensées par un bien que nous ne pouvions lui faire. Le mal féroce que nous aurions voulu exterminer, c'est à peine si nous l'avions frôlé. Nous ne faisions que l'exaspérer davantage. Attends peut-être l'heure où la captive serait dévorée. Les jours où la dose d'albumine avait été trop forte, Cottard, après une hésitation, refusait la morphine. Chez cet homme si insignifiant, si commun, il y avait, dans ces courts moments où il délibérait, où les dangers d'un traitement et d'un autre se disputaient en lui jusqu'à ce qu'il s'arrêtât à l'un, la sorte de grandeur d'un général, qui, vulgaire dans le reste de la vie, est un grand stratège, et, dans un moment périlleux, après avoir réfléchi un instant, conclut pour ce qui, militairement, est le plus sage et dit « Faites face à l'Est ». Médicalement, si peu d'espoir qu'il y eût de mettre un terme à cette crise du Rémy, il ne fallait pas fatiguer le rein. Mais d'autre part, quand ma grand-mère n'avait pas de morphine, ses douleurs devenaient intolérables. Elle recommençait perpétuellement un certain mouvement qui lui était difficile à accomplir sans gémir. Pour une grande part, la souffrance est une sorte de besoin de l'organisme de prendre conscience d'un état nouveau qui l'inquiète, de rendre la sensibilité adéquate à cet état. On peut discerner cette origine de la douleur dans le cas d'incommodités qui n'en sont pas pour tout le monde. Dans une chambre remplie d'une fumée à l'odeur pénétrante, deux hommes grossiers entreront et vaqueront à leurs affaires. Un troisième, d'organisation plus intime, trahira un trouble incessant. Ses narines ne cesseront de renifler anxieusement l'odeur qu'il devrait, semble-t-il, essayer de ne pas sentir, et qu'il cherchera chaque fois à faire adhérer, par une connaissance plus exacte, à son odorat incommodé. De là vient sans doute qu'une vive préoccupation empêche de se plaindre d'une rage de dents. Quand ma grand-mère souffrait ainsi, la sueur coulait sur son grand front mauve, y collant les mèches blanches, et si elle croyait que nous n'étions pas dans la chambre, elle poussait des cris. « Ah, c'est affreux !» Mais si elle apercevait ma mère, aussitôt elle employait toute son énergie à effacer de son visage les traces de douleur, ou, au contraire, répétait les mêmes plaintes en les accompagnant d'explications qui donnaient rétrospectivement un autre sens à celles que ma mère avait pu entendre. « Ah, ma fille, c'est affreux, rester couchée par ce beau soleil quand on voudrait aller se promener. Je pleure de rage contre vos prescriptions. » Mais elle ne pouvait empêcher le gémissement de ses regards, la sueur de son front, le sursaut convulsif, aussitôt réprimé, de ses membres. « Je n'ai pas mal, je me plains parce que je suis mal couchée, je me sens les cheveux en désordre. » « J'ai mal au cœur. Je me suis cognée contre le mur. » Et ma mère, au pied du lit, rivée à cette souffrance, comme si, à force de percer de son regard ce front douloureux, ce corps qui recevait le mal, elle eût dû finir par l'atteindre et l'emporter. Ma mère disait « Non, ma petite maman, nous ne te laisserons pas souffrir comme ça. On va trouver quelque chose. Prends patience une seconde. « Me permets-tu de t'embrasser sans que tu aies à bouger ?» Et, penchée sur le lit, les jambes fléchissantes, à demi agenouillées, comme si, à force d'humilité, elle avait plus de chance de faire exaucer le don passionné d'elle-même, Elle inclinait vers ma grand-mère toute sa vie dans son visage. Comme dans un ciboire qu'elle lui tendait, décoré en relief de fossettes et de plissements si passionnés, si désolés et si doux qu'on ne savait pas s'ils y étaient creusés par le ciseau d'un baiser, d'un sanglot ou d'un sourire. Ma grand-mère essayait, elle aussi, de tendre vers maman son visage. Il avait tellement changé que, sans doute, si elle eût eu la force de sortir, on ne l'eût reconnu qu'à la plume de son chapeau. Ses traits, comme dans des séances de modelage, semblaient s'appliquer, dans un effort qui la détournait de tout le reste, à se conformer à certains modèles que nous ne connaissions pas. Ce travail de statuaire touchait à sa fin. Et si la figure de ma grand-mère avait diminué, elle avait également durci. Les veines qui la traversaient semblaient celles, non pas d'un marbre, mais d'une pierre plus rugueuse. Toujours penchée en avant par la difficulté de respirer, en même temps que repliée sur elle-même par la fatigue, sa figure fruste, réduite, atrocement expressive, semblait, dans une sculpture primitive, presque préhistorique. La figure rude, violâtre, rousse, désespérée de quelque sauvage gardienne de tombeau. Mais toute l'œuvre n'était pas accomplie. Ensuite, il faudrait la briser, et puis, dans ce tombeau, qu'on avait si péniblement gardé avec cette dure contraction, descendre. Dans un de ces moments où, selon l'expression populaire, on ne sait plus à quel saint se vouer, comme ma grand-mère toussait et éternuait beaucoup, on suivit le conseil d'un parent qui affirmait qu'avec le spécialiste X, on était hors d'affaire en 3 jours. Les gens du monde disent cela de leur médecin, et on les croit, comme Françoise croyait les réclames des journaux. Le spécialiste vint, avec sa trousse chargée de tous les rhumes de ses clients, comme l'outre des halles. Ma grand-mère refusa net de se laisser examiner. Et nous, gênés pour le praticien qui s'était dérangé inutilement, nous déférâmes au désir qu'il exprima de visiter nos nez respectifs, lesquels, pourtant, n'avaient rien. Il prétendait que si, et que migraine ou colique, maladie de cœur ou diabète, c'est une maladie du nez mal comprise. À chacun de nous, il dit « Voilà une petite cornée que je serais bien aise de revoir. N'attendez pas trop. Avec quelques pointes de feu, je vous débarrasserai. » Certes, nous pensions à toute autre chose. Pourtant, nous nous demandâmes « Mais débarrasser de quoi ?» Bref, tous nos nez étaient malades. Il ne se trompa qu'en mettant la chose au présent, car dès le lendemain, son examen et son pansement provisoire avaient accompli leur effet. Chacun de nous eut son catarrhe. Et comme il rencontrait dans la rue mon père secoué par des quintes, il sourit à l'idée qu'un ignorant pût croire le mal dû à son intervention. Il nous avait examinés au moment où nous étions déjà malades. La maladie de ma grand-mère donna lieu à diverses personnes de manifester un excès ou une insuffisance de sympathie qui nous surprirent tout autant que le genre de hasard par lequel les uns ou les autres nous découvraient des chaînons de circonstances, ou même d'amitié, que nous n'eussions pas soupçonnés. Et les marques d'intérêt données par les personnes qui venaient sans cesse prendre des nouvelles nous révélaient la gravité d'un mal que jusque-là nous n'avions pas assez isolé, séparé des 1000 impressions douloureuses ressenties auprès de ma grand-mère. Prévenues par des pêches, ses sœurs ne quittèrent pas Combray. Elles avaient découvert un artiste qui leur donnait des séances d'excellente musique de chambre, dans l'audition de laquelle elles pensaient trouver, mieux qu'au chevet de la malade, un recueillement, une élévation douloureuse, desquelles la forme ne laissa pas de paraître insolite. Madame Sazerat écrivit à maman, mais comme une personne dont les fiançailles brusquement rompues, la rupture était le dreyfusisme, nous ont à jamais séparés. En revanche, Bergotte vint passer tous les jours plusieurs heures avec moi. Il avait toujours aimé à venir se fixer pendant quelque temps dans une même maison où il n'eut pas de frais à faire. Mais autrefois, c'était pour y parler sans être interrompu. Maintenant, pour garder longuement le silence sans qu'on lui demandât de parler. Car il était très malade. Les uns disaient d'albuminurie, comme ma grand-mère. Selon d'autres, il avait une tumeur. Il allait en s'affaiblissant. C'est avec difficulté qu'il montait notre escalier, avec une plus grande encore qu'il le descendait. Bien qu'appuyé à la rampe, il trébuchait souvent, et je crois qu'il serait resté chez lui s'il n'avait pas craint de perdre entièrement l'habitude, la possibilité de sortir. Lui, l'homme à barbiche que j'avais connu alerte, il n'y avait pas si longtemps. Il n'y voyait plus goutte, et sa parole même s'embarrassait souvent. Mais en même temps, tout au contraire, la somme de ses œuvres, connue seulement des lettrés à l'époque où Madame Swann patronnait leurs timides efforts de dissémination, maintenant grandie et forte aux yeux de tous, avait pris dans le grand public une extraordinaire puissance d'expansion. Sans doute, il arrive que c'est après sa mort seulement qu'un écrivain devient célèbre. Mais c'était en vie encore, et durant son lent acheminement vers la mort, non encore atteinte, qu'il assistait à celui de ses œuvres vers la renommée. Un auteur mort est du moins illustre sans fatigue. Le rayonnement de son nom s'arrête à la pierre de sa tombe. Dans la surdité du sommeil éternel, il n'est pas importuné par la gloire. Mais pour Bergotte, l'antithèse n'était pas entièrement achevée. Il existait encore assez pour souffrir du tumulte. Il remuait encore, bien que péniblement, tandis que ses œuvres, bondissantes, comme des filles qu'on aime, mais dont l'impétueuse jeunesse et les bruyants plaisirs vous fatiguent, entraînaient chaque jour jusqu'au pied de son lit des admirateurs nouveaux. Les visites qu'il nous faisait maintenant venaient pour moi quelques années trop tard, car je ne l'admirais plus autant. Ce qui n'est pas en contradiction avec ce grandissement de sa renommée. Une œuvre est rarement tout à fait comprise et victorieuse sans que celle d'un autre écrivain, obscur encore, n'ait commencé, auprès de quelques esprits plus difficiles, de substituer un nouveau culte à celui qui a presque fini de s'imposer. Dans les livres de Bergotte, que je relisais souvent, ses phrases étaient aussi claires devant mes yeux que mes propres idées. Les meubles dans ma chambre et les voitures dans la rue. Toutes choses s'y voyaient aisément, sinon telles qu'on les avait toujours vues, du moins telles qu'on avait l'habitude de les voir maintenant. Or, un nouvel écrivain avait commencé à publier des œuvres où les rapports entre les choses étaient si différents de ceux qui les liaient pour moi que je ne comprenais presque rien de ce qu'il écrivait. Il disait par exemple « Les tuyaux d'arrosage admiraient le bel entretien des routes. » Et cela, c'était facile, je glissais le long de ces routes, qui partaient toutes les 5 minutes de Briand et de Claudel. Alors, je ne comprenais plus, parce que j'avais attendu un nom de ville et qu'il m'était donné un nom de personne. Seulement, je sentais que ce n'était pas la phrase qui était mal faite, mais moi, pas assez fort et agile pour aller jusqu'au bout. Je reprenais mon élan, m'aidais des pieds et des mains pour arriver à l'endroit d'où je verrais les rapports nouveaux entre les choses. Chaque fois, parvenu à peu près à la moitié de la phrase, je retombais, comme plus tard au régiment, dans l'exercice appelé portique. Je n'en avais pas moins pour le nouvel écrivain l'admiration d'un enfant gauche et à qui on donne 0 pour la gymnastique devant un autre enfant plus adroit. Dès lors, j'admirais moins Bergotte, dont la limpidité me parut de l'insuffisance. Il y eut un temps où on reconnaissait bien les choses quand c'était Fromentin qui les peignait, et où on ne les reconnaissait plus quand c'était Renoir.